Ben, ça fait un petit bout qu'on en parle là, de l'air dans les classes, hein, dans les écoles. Il est vicié. Jusqu'à quel point? Là, il y a une étude qui a été menée très, je dirais, secrètement par des médecins, par des spécialistes. Et on va aller rejoindre Amir Kadir. Amir Kadir, il est infectiologue, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Pierre-Legardeur. On a été collègues ensemble à l'Assemblée. Bonjour, Amir.
Bonjour, Bernard.
Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Que disent les résultats de cette étude-là?
Alors, un groupe d'enseignants et un groupe de médecins et spécialistes des bioaérosols ont convaincu, disons, des enseignants d'installer des capteurs de CO2 pour voir quelle est la quantité de particules en suspension dans les classes. On sait qu'il y a des normes industrielles de santé publique pour les édifices et ces normes-là disent qu'il faut essayer de maintenir des niveaux de CO2 en dessous de 800 pour différentes raisons. Or, on sait
CO2, aperçu... c'est le gaz carbonique, là.
Ouais, exact. C'est ce qu'on... Et c'est indicatif, donc, de la quantité d'air, c'est-à-dire de l'absence de circulation. Parce que si l'air était changé régulièrement, et ça vaut pour un tas de choses, pour toutes sortes de contaminants, des allergènes, etc., ces particules en suspension s'accumulent. Et pour tous ceux qui peuvent avoir des problèmes ou de l'asthme ou simplement la concentration trop haute en CO2 peut ralentir l'activité cérébrale, rendre un peu stuporeux et tout ça. Donc, de faire en sorte de diminuer le niveau de CO2 par aération. On sait maintenant, avec force, et il faut absolument souligner ça, c'est la première chose que je crois que le gouvernement devrait rappeler à tout le monde et reconnaître, disons, au niveau de ses instances, pour donner les bonnes directives. C'est que la transmission par aérosol est excessivement importante.
C'est des gouttelettes contenant du virus qui sont suspendues dans l'air et qu'on peut inspirer.
Juste laver les mains, maintenir une distance de 2 mètres ne suffit pas. Ouais. Si dans une classe, il y a 20, 25, parfois comme au secondaire, 35 élèves avec un enseignant et qu'il n'y a pas de circulation d'air, l'accumulation de ces particules en suspension met à risque tout le monde si il y a une personne qui est infectée parmi ce groupe de personnes en classe.
Oui.
C'est ce qui explique d'ailleurs à peu près tous les événements superpropagateurs. Quand on les regarde, les événements superpropagateurs qui sont la dynamique principale de l'épidémie dans beaucoup de circonstances ne s'expliquent que s'il y a une transmission par aérosol. Mm-hmm. Donc, puis on le voit d'ailleurs, depuis quand on a un problème avec la deuxième vague et on n'est pas capable de le courber, ben c'est depuis l'ouverture des écoles, parce que pour tout le reste, on fait les choses comme il faut. Sauf qu'on a des milliers de gens dans des classes, des milliers de jeunes...
Qui sont mal aérés.
En fait, on pense que deux tiers des classes, suivant les affirmations du ministère, et nous, dans les classes qu'on a testées, trois quarts.
Dans les classes que vous avez testées, le trois quarts d'entre elles avaient un air qui ne respectait pas les règles minimales. C'est
exact.
Ça? De CO2.
Qui largement le 800 particules par million de CO2. Ça arrive même dans les classes du secondaire qu'on a testées au-dessus de 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules en suspension. L'air n'est pas échangé adéquatement. Il n'y a pas assez d'échange d'air. Donc, ça, c'est la deuxième chose que le gouvernement pourrait faire. Il faut tester toutes les classes. C'est un petit appareil. Les gens peuvent voir à la télé. C'est vraiment un tout petit appareil qui se branche à l'ordinateur qui permet en temps réel pour le professeur de voir comment ça se passe dans les classes.
De voir la quantité de CO2 dans les classes.
Exact.
Oui, c'est ça.
Et à partir de 800, ben, s'arranger pour ouvrir une porte. Des fois, juste pour ouvrir une porte suffit. Ouvrir des fenêtres, ça ne suffit pas toujours. Mais ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, c'est formidable. Et l'autre affaire, c'est que c'est sûr que durant l'hiver, là, on va avoir un problème et on ne pourra pas, à moins 20, là, ouvrir nos fenêtres dans les classes. Donc, de commencer à munir toutes les classes qui ont des problèmes de concentration d'air trop élevés puis pas un bon échangeur d'air, mais d'installer des purificateurs d'air portatifs. Ça coûte un peu plus cher à l'achat. Mais Bernard, il faut réaliser que d'abord, ça va nous faire épargner beaucoup sur le plan économique pour tous les impacts négatifs économiques qu'on a du COVID. De deux, ça ne sera pas la dernière épidémie respiratoire, malheureusement. Tous les scientifiques nous disent que ce genre d'épidémie risque d'arriver à intervalles. Peut-être pas avec la même ampleur, mais on va avoir des problèmes à l'avenir avec ce genre de situation. Donc, on est aussi bien de munir nos écoles des capacités qu'il faut pour préparer la prochaine vague.
Et on a des fabricants québécois. Nous, on a parlé à une entreprise de Saint-Hubert qui en fabrique des purificateurs d'air, qui les exporte même jusqu'en Chine. Ils attendaient des commandes, imagine-toi, du Québec. Ils avaient même mis de côté des purificateurs d'air en attendant qu'on leur passe les commandes. Et ils retenaient ces commandes-là plutôt que de les vendre à des Chinois ou à d'autres pays pour, dans le fond, nous rendre service. Puis, faudrait d'ailleurs que je vérifie s'ils ont connu une augmentation des commandes depuis qu'on a parlé avec eux.
Je crois qu'il y a des commissions scolaires qui n'ont pas attendu les directives.
Non, Lester B. Pearson, oui, notamment. Oui,
et
c'est
je
ça.
Crois qu'il faut que les commissions scolaires prennent cette initiative. Ce n'est pas pour mal faire, mais nos structures, et ce n'est pas juste au Québec, hein, on le voit avec l'OMS, on le voit avec la CDC, les instances normatives comme l'INSPQ, le CDC et l'OMS ont des rigidités institutionnelles, bureaucratiques, qui fait que l'avancement très rapide des données scientifiques dans un contexte d'épidémie où il faut être agile dans la traduction de ces avancées en actions concrètes, ben ça s'opère avec lenteur. C'est pour ça que tous ces organismes sont un ou deux coups en retard par rapport à ce que nous, quand on regarde les données scientifiques qui s'accumulent, on est capable de comprendre des meilleures connaissances. Donc, en attendant que le gouvernement envoie les directives, par mesure de prudence, je pense que ça ne serait pas superflu que toutes les institutions scolaires se dotent de ces petites machines, d'abord pour mesurer le CO2, puis ensuite, là où il le faut, des purificateurs portatifs.
Bon. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'étude, donc, qui a été faite secrètement, puis c'est très bien ainsi. On espère d'ailleurs que les enseignants, si jamais on découvre qui ils sont, ne subiront pas les représailles, parce que moi, je pense qu'ils ont fait œuvre utile. Mais j'allais dire, ce qu'on a découvert, Amir, tu y as fait référence, c'est que le fait d'ouvrir les fenêtres, mettons sur l'heure du midi, quand les élèves ne sont plus en classe, ça peut vraiment faire une très grande différence. Là. En 20 minutes, le taux de CO2 peut chuter dramatiquement. Diminuer de moitié en 20 minutes, tu ouvres les fenêtres de la classe, ça fait une vraie différence. Une vraie aération.
Oui, juste un moment, s'il vous plaît. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute que l'ouverture des fenêtres avec une porte est une clé disponible pour tout le monde lorsqu'il y a des fenêtres.
Oui.
Mais ce n'est pas toujours possible. Puis bientôt, on va avoir le grand froid et je ne crois pas que c'est une solution viable. Et donc, en attendant, on a peut-être quelques semaines. C'est pour ça que le gouvernement, je pense, est dans une situation d'urgence d'agir.
D'accord. Juste avant de se laisser, quelles sont tes deux ou trois réflexions là par rapport à l'épidémie présentement là? Je veux dire, tu es un scientifique, tu regardes ça, tu restes très actif. Y a-tu deux ou trois choses là que tu souhaites partager avec nous?
Ben, je crois que il faut que ceux qui ne sont pas sur la ligne de front, comme beaucoup de médecins, nous croient sur parole. Ça va pas très bien dans des hôpitaux de la couronne de Montréal, les hôpitaux de seconde ligne. Je ne parle même pas du CHUM, de l'hôpital juif de Montréal ou le CUSUM qui reçoivent les gros des cas les plus sévères.
Ou Maisonneuve-Rosemont,
Maisonneuve-Rosemont. Mmh. Mais les hôpitaux de deuxième ligne de réponse à la COVID sont déjà presque au niveau de la saturation. Les chiffres sont à peu près 80-85% d'occupation de nos lits de soins intensifs par des patients COVID. Les unités de transition où de peine et de misère, on sort les patients des soins puis on attend qu'ils soient plus stables avant de les renvoyer en centre ou chez eux. Ben, ces unités-là, actuellement, c'est entre 20 à 30 lits dans ces hôpitaux-là. Et là, il ne faudrait pas attendre que la troisième ligne, c'est-à-dire les hôpitaux qui ne sont même pas prévus être dans les deux premières lignes de défense, que ces hôpitaux-là aussi deviennent saturés. On a d'autres malades à traiter que les cas de COVID. Donc, je crois qu'on se doit une responsabilité collective, d'être un peu plus responsable par rapport aux directives que donne le gouvernement.
Très bien, Amir Kadir. Donc, infectiologue spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Pierre-Lagardeur. Je te laisse retourner travailler, Amir. Merci beaucoup.
Au revoir.